un texte un peu hard, hein, ce matin. Mais c'est le dimanche de la Réformation. C'est, je ne sais pas si c'est la tradition dans cette église, que je découvre encore un peu malgré tout, mais le dimanche de la Réformation, c'est l'occasion dans toutes les églises protestantes, en tout cas nombre d'entre elles, de célébrer, d'évoquer le glorieux passé de nos ancêtres réformateurs protestants, allemands, suisses, français, ou, si l'on a une foi plus évangélique, en y ajoutant les pères du réveil religieux, des réveils religieux, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, les frères Moraves, les frères Wesley, qui ont fondé le méthodisme. On pourrait citer des baptistes et peut-être même des libristes. Moi, j'ai choisi ce matin un angle différent. Parce que la réforme n'est pas premièrement un événement du passé, c'est un appel que Dieu adresse à chacun. Un appel à vivre l'évangile aujourd'hui. Et je remercie Christelle qui a magnifiquement préparé le terrain pour la lecture de ce passage de l'Épître aux Hébreux. Ou pour le dire avec les mots un peu inquiétants de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la réforme, c'est nous préparer à vivre cette terrible expérience qui consiste à tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous êtes prêts? Je ne suis pas sûr que nous choisissions, que nous ayons choisi dans les paroles bibliques cette formule-là, tomber entre les mains du Dieu vivant, pour parler de la foi à nos contemporains, pour témoigner de Jésus-Christ. Cette phrase n'a pas la musicalité de la bonne nouvelle joyeuse qu'on a envie de suivre. Tout d'abord, il y a le verbe tomber. Peut-être qu'on peut remettre le texte. Oui, non, ça va, on peut remettre le texte, comme ça c'est bien. Le verbe tomber. Il est rare quand même que tomber soit une expérience positive. À moins de tomber sur l'occasion du siècle au bon coin, ça oui. Quoique, c'est à voir, à moins de tomber, de recevoir un coup de foudre qui vous tombe comme ça sur le coin de la figure. Oui, pourquoi pas. Mais quand même, ici dans le texte, le fait que cette chute soit qualifiée de terrible, ça écarte quand même l'idée du bon plan. L'expression « tomber entre les mains de Dieu », elle ne doit pas être comprise à la lettre, parce que Dieu n'a pas de main. Donc, c'est une façon de parler. Une façon de parler pour dire quoi? Pour traduire une expérience de rencontre avec Dieu. Cette expérience est intérieure. Elle est une chute, donc elle est puissante. Et elle a des conséquences, ici qualifiées de dévastatrices. Tomber entre les mains du Dieu vivant, c'est faire l'expérience personnelle et terrible du face-à-face avec Dieu. C'est donc un moment éprouvant, inconfortable, où nous échappons. Nous n'échappons plus, en fait, à la question de Dieu. Nous y avons échappé, mais nous n'y échappons plus. La question de l'ultime devient obsessionnelle. C'est le temps de la crise spirituelle. Tomber entre les mains du Dieu vivant, c'est d'abord une façon d'affirmer que la mécanique de la foi... Ça marche comment la foi? Eh bien, c'est quelque chose qui nous échappe en grande partie. Je viens de consulter un sondage IFOP. Il vient de paraître sur la foi des Français. C'est édifiant. C'est historique aussi, puisque désormais, une majorité de Français, 51% exactement, déclare ne pas croire en Dieu. Mais l'Institut de sondage n'a pas précisé ce que on entendait par croire en Dieu. Et le verset que nous méditons ce matin explique à sa façon ce que cela veut dire, croire en Dieu. Il pose une question très importante. La foi est-elle une réalisation personnelle? Ou est-elle un acte de Dieu? Choisissons-nous de devenir croyants, comme on choisit pour les jeunes le parcours sup ou une glace à la vanille? Quelque chose ne s'est-il pas imposé à nous le jour où nous avons cru? Il ne suffit pas de vouloir être croyant pour le devenir. J'ai souvent entendu des amis me dire « Ah, combien j'aimerais avoir la foi comme toi !» Ça vous est déjà arrivé aussi, hein? C'est une manière de dire, qui est très juste, d'ailleurs très honnête, que la foi n'est pas seulement une question de volonté, une question de désir. Il y a autre chose. Et je crois que c'est le leitmotiv de cette épître aux Hébreux. Elle nous dit que les sacrifices, les rituels, les actes religieux ne sauvent pas. Ils font plein de choses, mais ils ne sauvent pas. Ils préparent notre terrain intérieur, ils prédisposent sans doute à l'acte de foi qui viendra un jour. Ou au contraire, selon le sondage IFOP, les sacrifices, les rituels, la religion préparent à l'incrédulité des masses. La religion peut être une bonne rampe de lancement pour la foi. C'est pour ça que nous éduquons nos enfants dans la connaissance de l'Évangile. Mais quelquefois, c'est une rampe de lancement pour l'incrédulité. En tout cas, la religion n'est jamais la foi. La religion, on vient de le dire, dont la principale activité c'est de transmettre la connaissance, de révéler la présence de Dieu dans le monde et dans l'Église. La religion ne le fait jamais, jamais advenir. Et l'ombrageuse parole du jour nous dit, au contraire, que c'est une chose terrible que d'être au contact du Dieu vivant. Et comme si cela ne suffisait pas à donner au visage de Dieu un caractère un peu inquiétant, il y a ce verset 30 qui ajoute « À moi la vengeance, à moi la rétribution, le Seigneur jugera son peuple. » C'est un peu lourd quand même, un peu dur. Bon, au point où nous en sommes, nous pouvons dire simplement que la foi, ce n'est pas un sentiment intérieur de quiétisme, de quiétude, de tranquillité, de bonheur paisible. Si vous voulez être tranquille, ne devenez pas chrétien. Construisez-vous, et aujourd'hui les matériaux de construction sont très nombreux. Construisez-vous une bulle étanche dans laquelle vous cultiverez votre bonheur, le bonheur tel que vous l'imaginez, ou plus sournoisement tel que notre société nous le dicte. Mais la foi en Christ, c'est tout autre chose. Ces 51% de Français qui ne croient plus en Dieu ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des décadents, Au contraire, ils ne croient plus, y ont-ils jamais cru, en ce Dieu gâteau, papa gâteau, en ce Dieu Père Noël, qui promet, qui arrive avec une hotte chargée de toutes les bénédictions auxquelles nous pouvons rêver, et qui distribue en veux-tu en voilà la prospérité à chacun. Ils n'y croient pas. Ils ont bien raison de ne pas y croire. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas le Papa Noël. Il est le Dieu vivant. C'est ainsi qu'il est nommé ici. Je voudrais qu'on regarde quand même d'un peu plus près l'effrayante parole du Deutéronome qui est citée ici. À moi la vengeance et la rétribution. Souvent on a entendu cette parole comme « Bon, il faut que je me calme, hein. Je ne vais pas lui dire tout ce que je pense. Hein. » Mais Dieu le fera. Et puis on fait de Dieu un peu notre chevalier servant qui va lui faire tomber sur le coin de la figure quelque chose de « Bang !» Regardons de plus près ce qu'il y a écrit dans le Deutéronome, sœurs et frères. Je crois qu'il est là, le passage, au chapitre 32. « À moi, la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et leur destin se précipite. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni soumis ni libre. » Vous voyez, c'est toujours mieux de remonter à la source des Écritures. J'entends ici que Dieu n'est pas seulement celui qui écrase dans sa main les petits moineaux que nous sommes. Dieu est aussi celui qui a de la compassion. Celui qui restaure un peuple à bout de force. Alors c'est l'entracte musical, hein. C'est très bien tombé. Mort et résurrection. Voilà le programme du Dieu vivant pour chacun de nous. Mourir à la vie que nous menons pour ressusciter à celle qu'il veut que nous menions. À une vie autre, nouvelle, une vie qui n'a rien en commun avec celle que nous connaissons. Il s'agit de faire le deuil douloureux de celui ou celle que nous sommes sans Dieu, pour ressusciter et devenir celui ou celle que Dieu appelle en Jésus-Christ. Ben ça, c'est une chose terrible. Terrible à vivre. Parce que, comme Christelle l'a souligné ce matin, c'est une mort à soi-même. Nous devons faire le deuil de ce que nous avons rêvé d'être sans Dieu. C'est une chose terriblement douloureuse. Et la sortie de deuil est encore plus douloureuse, encore plus terrible, parce que cette nouvelle naissance au forceps nous plonge dans un monde inconnu. Nous tombons, nous chutons dans une nouveauté vertigineuse de laquelle nous ne savons rien. C'est une entrée dans une vie au risque 1000 et non pas au risque 0. Ça, c'est le catéchisme de notre temps, pas celui de l'Évangile. Cette vie, selon Dieu, qui fait toute chose nouvelle, peut nous inquiéter. Elle peut inquiéter nos esprits qui sont souvent affolés par l'idée du changement. Et des choses qui sont dites ici dans ce passage, on peut passer la diapo suivante, sont très concrètes, regardez. Alors il y a des choses à ouvrir, hein. Tu fais un clic, ça suffit. Voilà, par exemple, il y en a une d'abord, il est question de compassion avec les prisonniers. Et puis vous avez ensuite, il est question de solidarité avec ceux qui subissent des mauvais traitements. Et puis, il est demandé de relativiser les biens que nous avons au profit de possessions meilleures. Et tout cela est possible une fois que nous avons été éclairés. Après que nous soyons passés par l'expérience de la mort à soi-même et de la résurrection en Christ. C'est une expérience de conversion, de rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Et sa lumière porte le nom de Jésus-Christ. Chacun va pouvoir choisir les mots qui lui conviennent pour traduire cette réalité nouvelle qui est la foi. Mais on peut s'interroger, à quoi devons-nous mourir exactement? Là encore, c'est à chacun de le découvrir. Et puis vous le savez bien au fond. Devons-nous mourir à cette obsession de devenir une personne puissante, influente, sachante, possédante et toutes les ans et les hantes que vous voulez? Ou devons-nous, au contraire, mourir à cette peur de vivre qui nous tétanise, à cette soumission maladive au destin, à cet effacement de soi, cette dévalorisation de soi devant les autres? Chacun le sait. Et puis, une fois que nous sommes morts, à quoi devons-nous ressusciter exactement? Eh bien, nous devons ressusciter à la vie telle que la Bible l'envisage dans toute sa complexité, sa beauté. Il ne s'agit pas de nous évader dans une bulle de spiritualité désincarnée qu'on appellerait l'Église ou le groupe spirituel. La vie nouvelle n'est pas écrite à l'avance. Ne laissez personne vous indiquer votre façon de vivre en ressuscité. Personne. Votre chemin est unique. Une chose est certaine, commune à nous tous qui aspirons à cette résurrection, une seule chose est certaine. C'est une voie d'intranquillité, une aventure inconfortable, terrible, où les certitudes sont souvent interrogées, malmenées. Pour reprendre les mots de Bernanos, tu peux l'afficher dans le journal d'un curé de campagne, il écrit, avec un langage un petit peu comme ça, léger, « Le bon Dieu n'a pas écrit que nous étions le miel de la terre, mais le sel. Or, notre pauvre monde ressemble au vieux père Job sur son fumier, plein de plaies et d'ulcères, du sel sur une peau à vif, ça brûle. Mais ça empêche aussi de pourrir. » Voilà la citation de Bernanos. Oui, sœurs et frères, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cela nous rend vivants, terriblement vivants. C'est cet appel-là qui, jadis, a mis en route les réformateurs, et pas seulement au XVIe siècle, mais tout au long de l'histoire de l'Église. Il y a eu des réformateurs. Et cet appel des Écritures, ce matin, résonne aujourd'hui encore. Il n'est pas adressé à une élite prophétique, spirituelle, intellectuelle, morale. Il est adressé à chacun de nous. Nous sommes appelés à nous réformer sans cesse, à vivre comme des ressuscités, Et je fais le pari qu'un témoignage aussi terrible, aussi vivant, ne laissera pas nos 51% d'incrédules de Français indifférents. Mais relèverons-nous le témoignage, le défi de l'intranquillité, de l'inconfort? Oui, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, et je trouve que c'est terriblement enthousiasmant. Amen.